C'est parti pour la compagnie des auteurs, conçue et préparée comme d'habitude par Corinne Amar, Gauthier Amiel, Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, à la réalisation Liscom et derrière la console, Nicolas Slimani.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée jusqu'à jeudi à William Faulkner. William Faulkner, né dans le Mississippi en 1897, est mort à l'âge de 64 ans dans ce même état, a été marqué par une histoire familiale rude et par une autre histoire également rude, celle du sud des États-Unis. Grand écrivain moderniste, admirateur des avant-gardes européennes et françaises en particulier, il a révolutionné par bien des aspects la façon d'écrire des romans, comme nous l'avons vu hier avec Jacques Potier lors de notre émission introductive. Et cette question de l'apport de Faulkner à l'histoire de la littérature, l'écrivain Pierre Bergougnoux nous en parlera encore davantage jeudi. Il en avait fait le cœur de son livre « Jusqu'à Faulkner » publié en 2002 aux éditions Gallimard. Et puis la veille, un anthropologue lisant un écrivain, Jean Jamin, a découvert Faulkner lors d'une mission ethnographique et s'est mis en tête de l'étudier avec les méthodes de sa discipline. Il nous dira mercredi où tout cela l'a mené. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous parlons des nouvelles de Faulkner à l'occasion de la parution, c'était le 15 mars dernier, d'un volume de la Pléiade qui leur est dédié. Mon invité est François Pitavi, il est le maître d'œuvre de ce volume. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
J'ai lu en fait Le bruit, la fureur à 21 ans, 22 ans, je ne sais pas.
Pierre Michon, écrivain.
J'ai été véritablement estomaqué. Pour la première fois, j'ai vu que quelqu'un qui écrit, pouvait rivaliser en opacité avec le monde. C'était aussi opaque et incompréhensible que le monde. C'est-à-dire, pour un garçon de 22 ans, le sexe et la mort. C'est-à-dire que Faulkner, c'est ce carrefour de sexe et de mort qui est incompréhensible et que cependant on lit avec passion dans la vie ou dans les pages de Faulkner. Et je ne connais que Faulkner pour être aussi opaque que la vie et aussi triomphal est terrible.
François Pitavi, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre.
Et merci de m'inviter.
Mais c'est nous qui vous remercions de venir. On vient d'entendre Pierre Michon parler de sa découverte de Faulkner et souligner son opacité fascinante. Et ce mot d'opacité, est-ce que vous, vous le reprendriez à votre compte pour parler de la littérature de Faulkner ?
Non, finalement. Je ne dirais pas que c'est opaque. Je ne dis pas que c'est simple. Ce sont des romans complexes, les images sont toujours tellement belles et la construction est toujours tellement remarquable que on se laisse entraîner. Je me souviens, comme je l'ai été, lorsque la première fois que j'ai lu Faulkner, je devais avoir 16 ou 17 ans, je suis tombé sur Absalom, j'ai rien compris, mais j'ai qu'une envie, c'était de continuer, parce que j'ai été absolument envoûté par les images de ce roman.
Oui, mais tout de même, vous n'avez rien compris, alors quand même, la première fois comme Pierre Michon.
J'avais 17 ans, bon, j'étais pas formé à cela, et je ne savais pas dans quel monde j'entrais.
Quand est-ce que vous avez vraiment commencé à comprendre Faulkner ? Comment s'est passé pour vous le chemin qui vous a mené à la compréhension que vous en avez aujourd'hui ?
Peut-être en allant dans son pays. Je suis allé beaucoup aux États-Unis, j'ai vécu un moment, et j'ai découvert donc le Mississippi, et je crois que c'est quand on ressent la touffeur de l'été, comme on le voit dans Septembre ardent, par exemple, quand on sent toutes les odeurs et qu'on en voit toutes les couleurs et qu'on en voit cette terre rouge ravinée, travaillée par par les intempéries que on entre un peu dans son œuvre. Je crois que c'est ce qui m'a aussi d'emblée fasciné.
Et on le comprend aussi mieux. Il n'y a pas que l'atmosphère des États-Unis, il y a aussi la compréhension profonde.
C'est-à-dire qu'il faut aussi entrer dans l'histoire du Sud. Ce Faulkner est nourri de l'histoire du Sud, qui démarre en gros au moment de l'abolition de l'esclavage, quoi, pour et de ce refus de cette abolition. Et c'est de cela que ces invaincus au fond qui ont refusé toujours cela, c'est là que démarre le Sud.
Alors vous publiez, vous éditez ces nouvelles en Pléiade. Parlons donc un petit peu de ces nouvelles et peut-être pour commencer du rapport qu'avait Faulkner à ce genre de la nouvelle par rapport aux autres genres qu'il a pratiqués, le roman essentiellement, mais aussi la poésie. Comment considérait-il ce genre de la nouvelle ?
C'est-à-dire, c'est ce que j'explique dans la préface, il a une double approche. À la fois, il dit que c'est le genre le plus difficile à pratiquer après la poésie. Il dit la poésie, puis la nouvelle, et quand on ne réussit pas à faire des nouvelles, on fait des romans. Et en même temps, il cesse de dire, dans sa correspondance, qu'il écrit des nouvelles pour gagner de l'argent. Ce qui n'est pas faux, mais il n'empêche qu'il n'est jamais... il ne cède jamais à aucune facilité et son exigence est toujours la même, même si le besoin le presse, même s'il y a un besoin d'argent, il ne laisse pas partir une nouvelle dont il estime qu'elle n'est pas bonne. Disons, il y en a peut-être deux ou trois qui sont un peu moins bonnes dans le tas, on les nommera pas, mais l'ensemble est d'une extraordinaire tenue.
Mais sur cette idée qu'au fond, Faulkner aurait souhaité être un poète, qu'il mettait très haut la poésie, en deuxième les nouvelles, et en troisième, les romans. Qu'est-ce que ça veut dire, alors?
Ça veut dire qu'il a quand même une exigence stylistique extraordinaire. Hein. Il suffit de lire, non pas de lire, d'entendre sa phrase, je crois. On voit qu'il travaille admirablement aussi sur les couleurs, les sonorités. Et quand vous voyez, par exemple, le début d'Absalon, je ne sais plus par cœur, mais il y a toute une série d'adjectifs qui disent déjà, au fond, tout ce qu'on va y entendre.
Alors, plusieurs périodes dans la rédaction de ces nouvelles. On peut dire que la première, il l'écrit à 22 ans, en 1919. C'est Atterrissage risqué.
Et la dernière... C'est une vignette. C'est pas une très bonne nouvelle. Disons, c'est la première.
Et la dernière, c'est 7 ans avant sa mort. Oui. En 1955, Poursuite au matin.
Oui.
Donc, ça fait 35 ans à peu près d'écriture de nouvelles.
À des rythmes différents. Il en a écrit au début, franchement, parce qu'il avait besoin de gagner sa vie.
Et parce que ça lui évitait d'aller à Hollywood, ce qu'il détestait plus.
Surtout au début, si vous voulez, ça lui rapportait beaucoup d'argent. Une nouvelle se vendait bien. Quand on voit le prix que Fitzgerald, par exemple, pouvait gagner avec des nouvelles, c'était des prix... Comparé au roman, c'est des prix énormes. Et Faulkner, vendre une nouvelle, ça lui rapportait souvent autant d'argent, quand il la vendait bien, que d'écrire un roman. Donc, il avait besoin d'écrire, mais comme je dis, il n'a jamais triché, en quelque sorte, sur l'exigence qui était la sienne.
Alors, comment organisait-il, au fond, ses nouvelles en recueil ? Parce que un recueil, c'est un livre. Et d'ailleurs, quand on achète le volume de la Pléiade, on se rend bien compte qu'il peut y avoir une cohérence entre les différentes nouvelles. Comment, lui, pensait-il l'organisation au sein d'un même volume de ces différentes nouvelles, François Pitavi ?
Disons, il a dit à un moment, je crois que c'était à Malcolm Cowley, je ne sais plus quelle année, que son livre était organisé selon une méthode contrapuntique. Je ne suis pas convaincu par cette explication. C'est plutôt un des regroupements thématiques où il a fait peut-être alterner assez facilement, assez régulièrement, des histoires tragiques et des histoires comiques, qui étaient en fond ces deux grandes veines. Mais l'organisation contrapuntique, je ne crois pas beaucoup. Il a son grand recueil là, qui sont les nouvelles recueillies, c'est thématique. Il y a le village, la campagne, etc. Et la guerre et l'au-delà. Bon, mais il n'y a pas franchement d'organisation contrapuntique, non.
Mais vous diriez que chaque recueil a une couleur particulière et un projet particulier ?
Non, je dirais pas cela. Non, parce qu'il a, publié ses nouvelles. Il y a eu trois recueils qui ont paru avant. Et non, il a rassemblé, avec une vague organisation qui ne convainc pas beaucoup, il a rassemblé les nouvelles qu'il avait écrites et qu'il avait besoin de rassembler pour pouvoir les vendre. Et c'est son éditeur qui l'a poussé aussi à rassembler ses nouvelles. Et ensuite, qu'il a poussé à faire le recueil important, ses nouvelles recueillies précisément, en 48, qui est paru en 50, et c'est là que ça l'a installé, au fond, aux yeux du monde, comme un nouvelliste extraordinaire.
Abordons le problème du fond maintenant, après la forme. On dit l'univers de Faulkner comme on parle de l'univers balzacien. Voulez-vous, William Faulkner, nous définir, nous dire ce qu'est d'après vous cet univers?
C'est le monde de tout écrivain. Son imagination, ses observations, son expérience. Aucun écrivain n'aurait le temps de pousser cette définition plus loin. Il ne lui resterait pas le temps d'écrire.
William Faulkner, en 1955, qui se refusait à définir son univers. Vous pourriez le définir, François Pitavi, vous avez travaillé cette question toute votre vie.
Je vois pas très bien ce que vous voulez dire, définir son univers. Son univers, bon, si, je vois ce que vous voulez me faire dire tout de même. Son univers, ça n'est pas uniquement... Il ne cherche pas uniquement à décrire ce qu'il voit, mais à construire un univers qui est entièrement fictif. Mmh. Et si vous voulez, même si on reconnaît dans ses œuvres, par exemple, des lieux très précis, même si son Jefferson mythique recouvre très précisément le Faulkner réel, le Oxford réel, pardon, non, ce n'est pas la même chose. Quand on aborde, on entre dans l'œuvre, on entre d'emblée dans un univers qui est un univers comme il l'appelait, mythique. C'est-à-dire qui naît entièrement de son imagination, dont il est le créateur, le propriétaire.
Il insistait beaucoup d'ailleurs sur ce point, qu'il était le propriétaire de son...
Il est le propriétaire de ce territoire. Fait. Il n'est pas le propriétaire d'Oxford, Mississippi, mais il est propriétaire de Jefferson. Il est propriétaire d'un territoire, je dirais même d'un terroir. Mmh. C'est cela.
On va en reparler parce que c'est évidemment très important. Et puis on va parler du Sud aussi dans les romans de Faulkner, François Pitavi. Mais pour continuer encore un petit peu sur cette question des nouvelles qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, est-ce que vous diriez que les nouvelles constituent des esquisses pour les romans et qu'ils travaillent finalement dans ces nouvelles? Alors on sait que c'est pour gagner de l'argent, vous l'avez dit, mais aussi qu'ils travaillent ces romans à venir en faisant des esquisses?
Oui, il part, je dirais pas qu'il part de nouvelles, mais souvent il part d'un personnage. C'est-à-dire que il ne voit pas un roman défiler dans son imagination, mais plutôt un personnage dont il va essayer de comprendre pourquoi il est là.
Donc il ne part pas sur l'intrigue, il part sur le personnage.
Je prends un exemple. Je pense au roman Lumière Doux, et vous avez au début du roman Lumière Doux, vous avez Lena Grove, qui est cette femme, sur une route enceinte, qui est parfaitement sereine et qui avance sans aucune crainte pour l'enfant à venir, qui avance sur cette route. Et au fond, toute la sérénité qui est là, c'est la sérénité de cette lumière en août qu'il va essayer de dire, c'est-à-dire de la dire par la description en parlant de cette femme et aussi en parlant de l'inverse, qui est toute la violence qui se trouve en même temps derrière ce paysage apparemment pacifique.
Cette femme qui a été abandonnée par le père de son enfant.
Oui, mais ça ne la dérange pas plus qu'autre chose. Elle a son enfant, et avec son enfant, elle est parfaitement sereine et contente. Mm. Le père de l'enfant, bon, c'est un épiphénomène.
Elle va quand même le chercher.
Elle va quand même le chercher, mais enfin, elle le cherche, mais c'est pas ça qu'elle cherche. C'est elle-même... Et sa luminosité, c'est ça qu'elle transmet.
Et c'est donc le personnage, au départ, de cette jeune fille, qui est le point de départ de Lumière d'août, et peut-être même son point d'arrivée, François Pitavi.
C'est aussi le point d'arrivée. Mais je vais vous donner un autre exemple. Tout le monde connaît le bruit et la fureur. Le bruit et la fureur, Faulkner, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une jeune fille, une petite fille, une fillette, qui était juchée en haut d'un poirier, en train de regarder depuis le haut du poirier ce qui se passait dans le salon, et il s'agissait des funérailles de la grand-mère, tandis que au pied du poirier, il y avait le reste de la famille qui pouvait voir sa culotte souillée parce qu'elle était assise dans le ruisseau. Et au fond, qu'est-ce que vous avez dans cette image? Vous avez déjà, disons, la conjonction du sexe et de la mort. Et je crois que si Faulkner s'est tellement conservé en lui cette image, c'est parce qu'elle disait en fond, au fond, toute son œuvre, tout ce qu'il avait à dire, c'est-à-dire cette conjonction absolument inséparable du sexe et de la mort.
Et d'ailleurs, c'est une nouvelle au départ qui
au départ, c'est...
donnera
au départ, c'est une
le
nouvelle.
Sujet
il
a
dit,
à
au départ, je ne pensais
livre.
Écrire qu'une nouvelle. Et puis, la nouvelle n'avait pas tout dit. Il a donc fallu que je continue et que je fasse parler les deux frères. Et ensuite, comme je n'avais pas tout dit, le narrateur anonyme prend la parole dans la dernière section. Et encore, tout n'est pas dit puisqu'il y est revenu des années plus tard pour... redire encore, en reprenant les deux différents personnages, l'histoire du bruit et la fureur, qui est une histoire sans fin.
Alors on pourrait continuer comme ça, les exemples de passerelles entre les nouvelles et les romans, les machinations de Dalmarine dans Le Caïd, qui anticipe celle de Flem Snopes, le bootlegger Popeye qui annonce le meurtrier de Sanctuaire, et Faulkner appelé, je crois, ses nouvelles, sa mine d'or. C'est ça, François Pitavi? Il allait puiser finalement là-dedans, dans ce vivier-là.
Mais aussi les romans. La mine d'or, ben, c'est là qu'il y trouvait non pas tant ses intrigues que ses personnages. Et c'était sa mine d'or parce que ça ne pouvait pas être un lieu réel, mais la mine d'or de son imaginaire, en quelque sorte.
Avec le Sud, cette opération-là, il dépasse les contingences, etc., pour aller au fond des troubles, des drames et des refoulements, etc., pour montrer qu'il était impossible. Il ne le dit jamais, mais il était impossible au départ que une légitimité harmonieuse ait pu s'établir là. C'est ce qu'il appelle sublimer le Sud, c'est-à-dire élever le Sud à la dignité d'un exemple typique de grand débat spirituel. Et je suis sûr que presque aucun des membres de son clan ou de sa famille ne peut comprendre ça. Faulkner parle du Sud comme tous les écrivains et qu'il défend sa cause, etc. Mais ce n'est pas vrai. Sublimer pour lui, ça veut dire placer tellement haut la question qu'on se pose à propos de cette réalité que cette réalité en devient presque une surréalité. Et moi, je crois que c'est ce qu'il veut dire par sublimer.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Faulkner avec François Pitavi et on vient d'entendre Édouard Glissant qui reprend cette expression de Faulkner, sublimer le Sud, qui n'est pas simple à comprendre. Comment l'entendez-vous?
Je crois qu'il suffit de retourner à l'étymologie, c'est-à-dire aller au-delà du seuil. Et aller au-delà du seuil, c'est-à-dire entrer dans son domaine qui est le domaine de l'imaginaire. Et il n'en reste pas, si vous voulez, à ce qu'il voit, mais il, à partir de ce qu'il voit, il en crée les images qui sont les images qui composent son univers. Hein. Au-delà d'un seuil, qui est le seuil de l'imaginaire. Je crois que c'est cela, le sens du mot sublimé. Et je suis certain que Glissant l'entendait en ce sens-là.
Mais c'est une façon de fuir le réel, de s'en éloigner.
Non, c'est une façon de le dire de le dire sans s'enliser, si vous voulez, dans une description qui ne serait que réaliste.
Élever le Sud à la dignité d'un exemple du grand débat spirituel. On est toujours là dans le spirituel, François Pitavi.
Je ne sais pas si... Non, je ne sais pas si c'est le mot spirituel convient à l'univers de Faulkner, parce que ça serait, si vous insistez sur ce mot, ça voudrait dire que l'on désincarne cette œuvre. Or, elle est profondément incarnée. C'est une œuvre qui est absolument ancrée dans un terroir, comme je disais tout à l'heure. Et je ne crois pas qu'il y a de spiritualisation là.
Ouais. Mais enfin, il y a un domaine mythique, c'est celui de Yoknapatawpha.
Oui, mais c'est pas un domaine spirituel, si vous voulez. C'est un domaine qui dépasse les limites spatio-temporelles pour entrer dans un univers fictif sans oublier d'où il vient.
Et vous citez dans votre préface ce qu'avait dit Faulkner dans un entretien de 1956 avec Jean Stein. Il disait « Un écrivain n'a besoin que de trois choses, oui. L'expérience, l'observation et l'imagination. »
En disant qu'il fallait 99% à chaque fois de ces trois éléments.
99% à chaque fois.
Oui.
Et pourtant, une certaine critique américaine s'est évertuée à retrouver les sources oui. dans le Sud des romans de Faulkner.
Tout à fait.
C'est donc une erreur, selon vous, de vouloir chercher dans ce Sud, qui est un Sud mythique pour Faulkner, des éléments qui le rappellent. Est-ce qu'il y a là une incompréhension?
Ça a été longtemps un tropisme de la critique et le littéraire américaine. Qui essayait de retrouver les sources. Je ne suis pas sûr que le mot « source » signifie quoi que ce soit. La source peut être un incident, un personnage, une lumière, une odeur. Je pense par exemple à Septembre ardent, c'est la touffeur de cet insupportable de cet été. C'est de cela que ça part. Ce n'est pas une source, cela. C'est une sensation qui est sublimée et qui ensuite donne induit un paysage et des personnages.
Vous pensez qu'il ne faut pas chercher à expliquer?
Qu'est-ce que vous avez expliqué quand vous avez dit, eh bien, tel personnage, il ressemble ou il a sa source dans tel autre personnage réel. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez dit cela? Rien du tout. Ce qui compte, c'est pas tellement la source. C'est ce qu'il en a fait, c'est ce qu'il a fait après coup. Donc je pense pas que... la critique française n'a d'ailleurs jamais tellement cherché à s'ancrer dans cette terre qu'elle l'a cherché à comprendre les romans. Alors que la critique américaine, surtout dans les années 30, a essayé de comprendre comment cet homme qui était dans un tout petit territoire pouvait arriver à dire des choses pareilles autrement qu'en cherchant autour de lui ce qui pouvait être les modèles de ses personnages.
C'est parce que la France avait la distance géographique, au fond, qui permettait de lire de manière presque plus pure, plus détachée, les romans de Faulkner.
Oui, peut-être. Mais je crois que c'était aussi un regard différent. La France des années 30, il y avait des lecteurs et des philosophes, on citait leur nom tout à l'heure, qui avaient un autre regard que celui que pouvaient avoir à l'époque les contemporains de Faulkner.
Leur nom, c'est Malraux, qui d'autre? Sartre.
Malraux, Sartre, Beauvoir, Camus. Ce sont les...
Ils se sont emparés comme ça de Faulkner et qui l'ont diffusé.
Ils sont tombés dessus, en traduction d'ailleurs, parce que je crois que Sartre, ils ne connaissaient pas l'anglais, il me semble bien. Et ils sont tombés dessus et ils ont été éblouis, ils ont découvert quelque chose qui n'avait pas cours dans la littérature européenne.
Donc il faut citer un autre nom, c'est celui de Coindreau, qui est ce Français qui va faire découvrir
Coindreau était le grand passeur, si vous voulez. Il était jeune prof, il est allé à Princeton et il s'est trouvé qu'il a rencontré Faulkner et que un jour Faulkner lui a passé à des textes. Et le bruit de la fureur, et il a dit aussitôt qu'il voulait le traduire. Et Faulkner, qui n'était pas tellement traduit à l'époque, a été très intéressé par, disons, la sensibilité de Coindreau, qui comprenait, parce qu'il vivait aux États-Unis, qui comprenait ce que Faulkner...
Dans le Nord, cela dit, il vivait.
Oui, mais il est allé aussi dans le sud. Non, mais il connaissait pas uniquement le nord. Hein. Il habitait en Virginie à un moment. Donc il connaissait bien, très bien les États-Unis. Mm. Et c'était pour cela un remarquable passeur. Ses traductions sont admirables. Quand je pense que As I Lay Dying, il a réussi à en faire Tandis que j'agonie, c'est une admirable trouvaille.
Donc on a compris, François Pitavi, que c'était une erreur de chercher à calquer le comté imaginaire de Faulkner sur sa ville, même s'il y a des ressemblances.
Cela dit, ça y ressemble.
Et c'est vrai que ça y ressemble. Ce serait une autre erreur d'en faire un écrivain régionaliste, parce qu'il ne s'intéresse finalement pas du tout au folklore du Sud, Faulkner.
Non, il ne s'intéresse pas au folklore du Sud. C'est-à-dire que s'il décrit les pratiques, les rites, les rituels de qui entourent la mort, ça ne veut pas dire qu'il s'en tient uniquement à ce qu'il peut voir dans le Sud, mais il veut en faire l'image, disons, de la condition humaine.
Qu'est-ce qui l'intéresse dans l'observation, parce que c'est un observateur quand même, Faulkner, de ce qu'il a autour de lui?
Il faut bien partir de quelque chose. Il n'invente pas tout, même s'il invente tout, si l'on veut. Mais il part, au fond, comme beaucoup d'autres écrivains américains de l'époque, de ce qu'il a sous les yeux. Et c'est de cela qui nourrit son imagination. Et ensuite, il la déborde. Il dépasse le seuil, comme on le disait tout à l'heure, pour entrer dans un univers.
Mais ce qu'il a sous les yeux, c'est à la fois des paysages, mais c'est aussi les petits blancs des plantations.
Tout à fait.
C'est aussi évidemment les noirs. C'est des individualités avant tout qu'il regarde. C'est ça qui l'intéresse le plus.
Il a toujours dit que ce qui l'intéressait, c'était de voir. Il voit un homme debout, un personnage debout. Et c'est cela. Il voit les êtres, et c'est à partir de cela qu'il reconstruit tout l'univers qui les entoure.
Et alors justement, quand on parle de Faulkner et quand on pense au sud des États-Unis, on ne peut pas ne pas penser à la fracture, pour ne pas dire plus, entre les blancs et les noirs. Quel est son regard là-dessus?
Si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer l'homme public et l'écrivain, là. L'homme public, il vivait dans un sud qui était déchiré complètement. En 1930, je rappelle qu'il y avait encore des lynchages dans le Mississippi. Hein. Et il y a eu 500 lynchages entre 1880 et 1930. Hein.
Donc, Faulkner... On les empêchait d'exercer leur droit de vote.
Mais c'est ce que je dis, c'est pas simplement ça. C'est que le blanc, le petit blanc, le pauvre blanc, qui très souvent avait une condition, un mode de vie qui n'était pas différent de celui du noir... Il n'était pas mieux nourri, ni mieux... Non. Les Noirs qui travaillaient dans les maisons, qui étaient les domestiques, étaient souvent mieux nourris et mieux habillés et mieux logés que les pauvres Blancs qui vivaient dans des cases en bois faites de planches mal jointoyées, qui étaient des cases misérables. Mais il leur fallait, pour exister, affirmer leur supériorité par rapport à quelque chose dont ils décidaient que c'était inférieur à eux. Et le noir était l'objet, forcément, de cette détestation et de cette façon d'assurer sa supériorité.
Même s'il pouvait aussi avoir des complexes vis-à-vis des noirs, et ça, on le lit dans Faulkner, notamment sur cette espèce de mythe sexuel de la puissance de l'homme noir.
Ça, c'est un fantasme qui hante l'imaginaire du Sud, que l'homme blanc... pas sûr de lui, peut-être à cause de sa situation matérielle, le petit blanc, imagine le noir, il fantasme un noir qui a une puissance sexuelle qui le menace. Et c'est pour ça que, toutes les histoires de lynchage, hein, ces histoires de noir ou de soi-disant noir qui menaceraient la supériorité du blanc et qui le menaceraient dans son, disons, au plus profond de lui-même, c'est-à-dire dans sa sexualité. On le voit bien. Je prends une histoire comme Septembre Ardent, par exemple. Bon, la jeune femme qui est là, Minnie Cooper, souffre évidemment d'absence de sexualité. Elle est laissée pour compte, alors qu'elle voit toutes ses amies qui se marient et qui ont des enfants, et elle fantasme qu'elle serait poursuivie ou qu'elle aurait été vue par un noir qui l'aurait vue dans sa salle de bain. Ce qui est absolument faux. Personne ne la croit. Mais on ne peut pas, dans ce Sud, ne pas croire la parole de la femme blanche, même si l'on sait qu'elle est fausse, plutôt que celle du noir, même si on sait qu'elle est vraie.
Mais Faulkner est considéré par beaucoup de personnes de la communauté noire, encore aujourd'hui aux États-Unis, comme étant, peut-être pas raciste, mais comme n'ayant pas suffisamment indiqué la terrible domination des Blancs sur les Noirs. Comment voyez-vous les choses? Est-ce un malentendu, selon vous, François Pitavi, ou pas?
C'est-à-dire, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une différence entre la parole de l'écrivain, la vision qu'il en propose. Le racisme est sans ambiguïté aucune condamné dans ces textes. Pensez à Lumière Doux, il n'y a aucun doute là-dessus. Mmh.
Mais il dénonce les lynchages aussi. Oui.
Dans la vie, il vivait dans des années difficiles dans le Sud. Il avait ensuite une position qui faisait que, surtout dans Oxford, Mississippi, qui était une toute petite ville où les Noirs, même s'ils étaient plus nombreux que les Blancs, ne pouvaient être qu'en position inférieure. Et dans cette petite ville, ils ne pouvaient pas avoir, au fond, une attitude franchement différente de celle de la communauté qui l'entourait. C'est quand même un texte, dans les années 50, qui me semble tout à fait significatif. Aux Noirs qui disent qu'ils veulent l'émancipation, etc., et l'égalité, il leur dit quand même « go slow », ne vous pressez pas.
Et c'est peut-être ça qu'on lui reproche, justement.
C'est ça qu'on lui reproche. Mais avait-il le choix de pouvoir dire autre chose en son temps et en ce lieu? Probablement pas. Il est quand même un homme de son temps et de son lieu, en tant qu'homme public.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.